Début septembre, j'appelle Julie, la RH, pour lui demander de passer chez Anthony. Je tiens à lui exposer la situation de vive voix. En entendant la porte de sa voiture claquer, mon angoisse monte d'un cran. J'appréhende sa réaction. Mais à ma grande surprise, quand je me confie à elle, elle éclate de rire et se réjouit pour nous. Je le savais, dès le premier jour, j'étais sûre que vous étiez faits l'un pour l'autre. Une heure plus tard, l'agence est au courant de notre histoire. Autant dire que la réaction est mitigée, mais ils doivent faire avec. Nous n'allons plus nous cacher. Je n'ai pas perdu mon travail, ni ma relation naissante. Jusqu'ici, tout va bien. Heureusement, car un nouveau défi nous attend, celui qu'a imaginé Anthony sur la Via Rhôna pour ses 10 ans de Tétra. L'organisme qui le soutient lui a promis d'essayer de lui trouver des auxiliaires de vie pour l'accompagner. Persuadé que je serais indisponible à cause de mon fils, il n'a même pas pensé à me proposer. Quand le service le prévient que je me suis portée volontaire, Anthony est très touché. Comme il s'amuse à le dire, j'ai marqué pas mal de points ce jour-là. Trêve de blagues, avant même qu'on ne soit en couple, je ne voyais pas le lâcher. Je sais combien cette aventure lui tient à cœur. Je confie donc mon fils à ses grands-parents et le 17 septembre 2018, c'est parti pour 300 km en 13 jours, soit 6 à 8 heures de fauteuil par jour, sous le cagnard. À suivre Anthony en roller ou en camping-car, tout ça dans un confort franchement rudimentaire, le challenge est de taille. Il était prévu que 2 autres auxiliaires m'aident, mais finalement, elles jettent l'éponge. Je gère tout, ou presque, seule. Les soins d'Anthony, ses repas, sa toilette, ses changements de tenue, l'aider à faire ses besoins. Souvent, je ne dors que 2 ou 3 heures par nuit. Ma fatigue physique est extrême, l'usure mentale aussi. Malgré les instants de satisfaction et de rire, par 2 fois, j'ai failli partir. Mais trop de choses reposent sur moi. Je tiens bon, malgré la pression, uniquement pour Anthony. Avec une magnifique récompense à l'arrivée, son sourire et son émotion. Alors qu'en fond sonore, je lui passe la musique de Rocky sur mon téléphone. Un tel exploit, ça mérite bien ça. Finalement, c'est cette expérience qui nous lie. Après tout, nous sommes au début de la relation. Elle aurait pu exploser en vol dans ce périple fait de sueur, de manque de sommeil et de pas mal de coups de gueule. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. Dans les difficultés, je sens à quel point cet homme m'est devenu essentiel. Même quand je suis à bout ou qu'il montre son caractère de cochon, je n'ai pas envie de le quitter. Ma place est avec lui. Anthony, lui, dit souvent que c'est sur la Via Rhôna qu'il a compris que j'étais la femme de sa vie. Le suivre jusqu'au bout dans cette galère a été pour lui une immense preuve d'amour. À notre retour, comme d'habitude, il me taquine. Si après ça, on se supporte encore, c'est que notre couple peut résister à tout. On pourrait limite se marier. Non merci. Pourquoi ? Je suis contre le mariage.
Les histoires d'amour extraordinaires.
Sophie Davant.
Le récit.
Quand Anthony évoque un potentiel mariage, je botte en touche. En partie car ce genre d'engagement me fait peur. Ce n'est pas le handicap en soi qui m'effraie. C'est le fait de devoir le gérer seul, sans aide extérieure. Je sais d'expérience que c'est le cas pour la plupart des aidants. Je dois être sûre d'avoir les épaules pour de telles responsabilités. Le poids du regard des autres, je m'en fiche. D'ailleurs, à l'époque, je crois naïvement que les mentalités ont évolué. Les réactions de notre entourage vont vite me prouver que j'ai tort. Quand je leur annonce que je suis en couple avec Anto, Beaucoup de mes proches le vivent mal. Des amis me lâchent ouvertement. Mon père s'indigne même. Lilou, qu'est-ce que tu nous fais encore comme connerie ? Les réactions ne sont pas plus tendres dans le cercle d'Anthony. On me soupçonne carrément d'être avec lui par intérêt. Qu'est-ce qu'elle lui veut, celle-là ? Voilà ce qu'on dit de moi. Texto. Sans oublier ceux qui me voient comme une mère Teresa qui se sacrifie auprès d'un tétraplégique. En résumé, je suis un escroc ou une sainte. Pour la demi-mesure, on repassera. Et sinon, ai-je le droit d'être simplement amoureuse ou comment ça se passe ? Les gens ne vont pas au-delà du handicap. Anthony n'est pas diminué comme certains le pensent. Au contraire, tous les hommes que j'ai connus avant lui ne lui arrivent pas à la cheville. Son amour ne m'enferme pas. Il me porte chaque jour. Les gens me prédisent une vie compliquée avec lui. Moi, j'y vois une existence riche de sens. En réalité, les premiers mois de notre relation, notre difficulté est surtout de passer du duo soignant-soigné au couple amoureux. Au début, Anthony vit mal le fait que je l'aide à faire sa toilette ou ses besoins. Il se sent atteint dans sa virilité. Dans l'éducation que j'ai reçue, c'est l'homme qui protège la femme, pas l'inverse. Arrête avec tes vieux schémas, tu restes un homme, quoi qu'il arrive, même quand je te nettoie. Ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est un peu humiliant parfois, si j'ai eu un petit souci technique, par exemple. Ne dis pas de bêtises, on est tous fait pareil, ça ne me gêne pas. Ce sont des choses naturelles. Au fil du temps, à force de complicité, de blagues, nous finissons par faire abstraction de tout ça. L'aspect physiologique passe au second plan. Je lui donne ses soins de manière presque automatique. Tout ce qui reste, c'est un moment de connexion, rien que pour nous. En décembre 2018, quelques mois après notre premier baiser, on s'installe ensemble. Mathéo, mon fiston, est évidemment de la partie. Jusque-là, notre relation était fusionnelle. Faire de la place à un nouvel élément dans notre équipe mère-fils est compliqué pour lui. Et puis il y a le handicap. Mathéo en a peur, notamment des mains d'Anthony qui sont un peu abîmées. Mais à force de patience et de douceur, Anthony réussit à créer du lien entre eux. Depuis, leur complicité n'a fait que grandir. Même si Anthony n'est pas le père de Mathéo, il est toujours là, pour lui, et solide. C'est lui qui nous a appris qu'on pouvait être une famille, même sans les liens du sang. Je trouve ça d'autant plus beau qu'Anthony avait fait, lui aussi, une croix sur sa vie amoureuse. Il pensait qu'il ne pourrait jamais être père. Le chemin parcouru est impressionnant. En janvier 2019, il se sent prêt à me demander ma main, en bonne et due forme. Mais l'idée que je me donne la bague à moi-même lui déplaît. Pas du genre à se décourager, Anthony trouve un stratagème et met sa sœur dans la combine. Je ne me doute de rien. Impossible d'imaginer qu'il va faire sa demande sur le parking d'un supermarché. Chaton, j'ai encore 2-3 achats à faire. On se rejoint au camion dans 30 minutes ? Ok, Bibou, pas de souci. À plus tard. En une demi-heure, il réussit à filer à la bijouterie pour m'acheter une bague. La vendeuse la glisse dans sa poche. Ne reste plus qu'à attendre la sœur d'Anthony pour qu'elle l'aide à prendre le bijou en main. Et là, c'est la tuile. Elle reste injoignable. S'il ne veut pas que je tombe sur l'anneau en le couchant ce soir, il va devoir ruser. Il faut trouver un plan d'urgence où la surprise sera gâchée. Quand j'ouvre la porte du camion, je le retrouve rouge et en sueur. Il vient de batailler 20 minutes pour récupérer l'écrin et l'ouvrir en se servant de sa langue. Anthony est KO, mais la mission est remplie. À peine assise, il me tend la précieuse bague. « Est-ce que tu veux bien me supporter les 50 prochaines années ?» Surprise, je sens mes yeux s'embrumer. « Évidemment, mon amour, que je le veux. Tu ne vas pas te débarrasser de moi comme ça. » Après des mois d'attente dû au Covid, nous nous sommes enfin dit oui le 2 octobre 2021 dans notre village. C'était un mariage en petit comité, entouré des gens qui comptent le plus. Toujours bricoleur, Anthony avait soudé une fourchette à son poignet de maintien pour me tendre l'anneau. Je me suis sentie fière de devenir sa femme. 4 ans plus tard, nous sommes toujours aussi amoureux. Vivre aux côtés d'Anthony est une chance, mais aussi un défi. Chaque jour, j'oscille entre les moments où son courage m'inspire et ceux où la fatigue me submerge. Mon mari est tétraplégique et pas dans une version légère de ce mot. Il a besoin de moi, chaque heure, chaque minute. Oui, j'ai un peu d'aide, j'en suis reconnaissante, mais face à tout ce qu'implique le handicap, ce soutien reste fragile, comme une pause dans un marathon sans fin. Alors j'ai appris à ne plus attendre de miracles. Ce quotidien, c'est le nôtre. Une vie où l'amour n'est pas qu'un mot, mais un pilier. Une force tranquille qui me donne la volonté de continuer. Cet amour est la raison pour laquelle je me lève chaque matin. Et ce qui me rappelle, quelles que soient les difficultés, que nous avançons ensemble, main dans la main. Merci à Julia Freund pour l'écriture de ce récit. Les illustrations sonores ont été imaginées par Olivier Duval et la réalisation est signée Boris Paczynski. Merci à eux.
Europe 1.
Les histoires d'amour extraordinaires.
Pour en discuter, j'ai la chance de les recevoir tous les deux, Lilou et Anthony. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on s'est régalé avec votre histoire. Au début du récit, on explique que vous vous défendez d'avoir une histoire hors norme ou flamboyante. Pourtant, je vous assure qu'elle est hors norme. Vous ne vous en rendez pas compte ?
Bah, à force d'entendre les autres, si, mais pour nous, non, ça nous semble normal.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les autres ?
Bah, souvent, c'est de la surprise, c'est beaucoup de questions dans tous les sens. Mais comment vous faites ? Comment votre histoire peut fonctionner, comment tout ça, c'est beaucoup d'étonnement, ouais.
Ce qui surprend aussi, c'est que qu'on se soit mis ensemble après. Souvent, les personnes pensent qu'on était déjà en couple, parce que ça paraît rare si une personne, on va dire entre parenthèses normale, va être avec une personne en situation de handicap.
Les gens pensent que vous étiez en couple avant votre accident, quoi, c'est ça ?
Ouais.
Sincèrement, est-ce que vous auriez vraiment pu vous empêcher d'aimer Anthony pour des raisons éthiques ?
Franchement, oui, parce que j'ai beaucoup de principes et de limites que pour moi, il ne faut pas dépasser. J'ai déjà tourné le dos à des gens que j'aimais de manière générale pour des limites qu'il ne fallait pas dépasser. Donc oui, j'aurais pu, sincèrement, oui.
Mais heureusement qu'il a insisté, non ?
Oui. Aujourd'hui, on peut dire qu'heureusement, oui.
Vous avez mis longtemps à craquer ?
Ben non. Sincèrement, ça a duré 30 secondes.
Anthony, quel a été le tout premier moment où vous vous êtes dit « je crois que je suis vraiment en train de tomber amoureux d'elle ».
Oui, c'est quand même assez rapide, mais au début, je ne voulais pas parce que c'est vrai que, vu que c'était mon auxiliaire de vie, c'est vrai que souvent les femmes dans ce milieu sont sujets au malheur des hommes, on va dire, leur perversion, et je voulais pas contribuer à ça, parce que c'est vrai qu'elles sont pas là pour ça. Mm-hmm. Mais je lui envoyais beaucoup de messages, et c'est vrai que moi, je suis pas du tout téléphone, au grand malheur de mes copains et de mes proches, parce que c'est vrai que je n'y touche jamais. Je me disais que de vouloir envoyer des messages toute la journée à Lilou, c'était quand même bizarre. Mmh. Et puis je me suis dit que j'étais amoureux, quoi, mais qu'il fallait pas.
Elle vous a plu dès le début, dès que vous l'avez vue ?
Non, quand je l'ai vue au début, pour moi, ça allait plus être une super pote, une très bonne copine. Mais après, avec le temps, pas trop longtemps, elle m'a vu plus. Et c'est vrai que sa douceur et sa façon d'être avec les gens, ça m'a vraiment fait craquer.
Est-ce que vous avez été gêné, vous aussi, comme Lilou, par le peu de différence d'âge entre vous ?
Non, pas du tout. Dans mon cas, c'est comme, moi, je pense dans mon cas, même pour les autres personnes dans ma situation, on a tellement l'habitude d'avoir des intervenantes de tout âge et on a un peu plus l'habitude. Et quand elle est venue intervenir à la maison, ça faisait 10 ans que j'avais eu mon accident, donc c'est vrai que j'avais plus l'habitude qu'elle, je pense.
Et Lilou, vous, à quel moment vous avez craqué, à quel moment vous avez commencé à envisager Anthony autrement que comme votre bénéficiaire, comme vous dites ?
Au début, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Je faisais sans boire ou peut-être que je voulais pas. Et c'est au moment où vraiment on a mis les choses à plat où je me suis dit, ouais, mais en fait, si... Je l'aime, quoi, et c'est vraiment le jour où on en a parlé.
Qu'est-ce qui vous fait craquer chez lui ?
Oh, il est drôle, très drôle, il me fait vraiment rire, et puis il a une façon de voir la vie que moi, je ne voyais pas. Il m'a vraiment appris à voir la vie.
C'est-à-dire ?
J'étais quelqu'un de très triste, un peu, j'étais dans la vie c'était trop sombre dans ma vie. Mmh. Et je me suis étonnée de le voir, entre guillemets, dans sa situation, être aussi heureux. Et on va dire que c'est quelque chose qui m'a transmis, je pense, ça m'a piqué.
Comment on fait pour transformer ce drame en quelque chose de positif et de continuer à voir la vie de manière positive, Anthony ?
Le centre de rééducation est quelque chose, on va dire, de malheureusement merveilleux. Quand je me suis réveillé de mon accident, je ne bougeais plus du tout les bras. Parce que j'avais l'œdème, on va dire, de l'accident au niveau de la colonne qui était remontée. Mmh. Et j'ai pu récupérer un tout petit peu l'usage de mes bras et j'ai vu des personnes au centre qui étaient, on va dire, dans le cadre intouchable et qui ne bougeaient pas du tout les bras. Mmh. Mmh. Et le peu que je peux faire, moi, avec ce que j'ai récupéré, je trouve ça juste incroyable, leur force qu'ils avaient. Ça m'a donné en fait une philosophie de me dire que la vie est extrêmement belle parce qu'on peut faire tout le temps plein de petites choses et qu'au bout du compte, il y a vraiment tout le temps pire et qu'au bout du compte, on n'a pas forcément le droit de se plaindre par rapport à ces gens-là, quoi.
Ça, vous êtes parvenu à cette philosophie tout seul ou avec des psys que vous avez peut-être rencontrés dans ce centre de rééducation ?
Bon, après, ma femme dit que je suis un extraterrestre. j'ai eu une éducation assez particulière de mon père, assez dure mais juste, qui m'a toujours dit que quand on prend des décisions et qu'on joue avec le feu, si on se brûle, on doit assumer. C'est vrai que dans mon cas, c'est plus une erreur de ma part quand même dans la pratique de mon sport. Mmh. Et on va dire que j'assume bien plus et j'accepte bien plus ma situation parce que je sais que j'ai extrêmement joué avec le feu et la brûlure était inévitable. Et du coup, j'assume, on va dire, pleinement cette situation qui n'est pas forcément drôle. Mmh. Et je pense que dans mon cas, c'est pour ça que j'ai une philosophie aussi plus joyeuse, si je puis dire.
Et alors, où trouvez-vous l'adrénaline aujourd'hui dans votre situation, puisque vous êtes un amateur d'adrénaline ?
Eh ben, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose alors qui ne va pas parler à beaucoup de monde, mais qui, moi, me permet de retrouver mon esprit de compétiteur et de tout ça. À l'heure d'aujourd'hui, on va dire que je suis créateur de contenu dans le gaming, et c'est quelque chose où je suis 100% autonome. Mmh. Et le fait de chercher de la progression et donc, on va dire, de retrouver une phase d'entraînement comme j'avais un peu avant mon accident. Alors, c'est pas de l'adrénaline comme avant, parce que je suis devenu trouillard. Je suis passé de très, très courageux à trop courageux à très trouillard. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me permet d'être 100% autonome et de retrouver un peu cette...
Je le vois pendant le Téléthon, le succès de la nuit du gaming. Peut-être que vous avez participé d'ailleurs, Anthony, non ?
C'est ça, oui, l'année passée, on a été conviés justement au Téléthon Gaming, ouais. À Paris. Et, ouais. Et c'est des moments qui sont vraiment sympas, quoi.
Je crois que cette année, ça a rapporté plus de 400 000 euros quand même. C'est pas négligeable. Qu'est-ce que vous avez appris, Lilou, aux côtés d'Anthony et de sa belle philosophie?
Ben justement, de voir la vie, de voir que la vie elle est belle et puis de construire des projets. Avant, j'avais pas d'envie, pas de but, je faisais rien. Aujourd'hui, ben j'ai le courage de partir 15 jours en randonnée. Je me lançais des défis un peu sportifs. Voilà, c'est toutes des petites choses que ça j'aurais certainement jamais fait avant d'être avec lui.
Mais vous, vous partez en randonnée avec lui?
Non, je pars malheureusement toute seule, mais voilà, c'est justement le courage de faire des choses que j'aime sans avoir peur, parce que je suis très trouillarde de base, donc.
Mais ce qui est sympa, ce qui est sympa, c'est que malgré le fait que vous soyez en couple, vous vous laissez beaucoup d'autonomie et d'indépendance à chacun. C'est peut-être ça aussi le succès de la longévité.
Ouais. Je pense.
Moi, c'est vrai que je vous l'ai toujours dit, il faut que tu ailles faire tes randonnées. C'est pas parce que je peux pas être là qu'il faut pas que tu y vives. Et on regarde beaucoup Mike Horn. Mm-hmm. Et du coup, lui, c'est vrai que sa femme, quand elle est partie, elle lui a dit, je veux pas que tu meurs, mais que tu vives pour moi. Et c'est vrai qu'au bout du compte, je veux pas qu'elle se prive. Je veux plutôt qu'elle vive pour moi. Et je lui dis, tu me fais plein de photos, tu me racontes. Et au bout du compte, même si j'y suis pas, j'y suis quand même un peu avec elle, quoi.
Alors, Lilou, quand Anthony vous a fait sa demande en mariage, quelle a été votre toute première pensée? On sait que vous étiez contre.
Non, il l'a fait. Mais j'ai été très surprise. Je me suis dit, oh non. Au début, je me suis dit, oh non, il l'a fait.
Et alors, vous avez accepté, alors que vous étiez contre le mariage, l'amour était plus fort?
Ben, alors, c'est pas que j'étais contre le mariage. J'ai toujours rêvé de mariage, mais c'est que j'ai fini par plus croire en l'amour. C'est un peu quelque chose que je cherchais, moi, depuis toujours. Ouais. Donc, je m'étais un peu résignée. C'est vrai qu'autour de moi, je voyais des gens qui se mariaient pour la situation, pour X raisons, mais pas très souvent par amour. Mm-hmm. Et je me suis dit, moi, je peux pas rentrer dans ce schéma-là. Et j'avais fait une croix dessus. Et quand Anthony forcément m'a demandé, c'était évident que pour moi, ça n'allait pas être la même chose. Donc forcément, j'ai dit oui, ouais.
Et alors, ça va? Vous l'assumez?
Ah oui, et puis je suis très heureuse et pour rien au monde, je changerai ça.
Alors, vous parlez de projet. Qu'est-ce que vous avez hâte de vivre ensemble dans les prochains mois?
Eh bien, on va dire que une loi s'est passée. Alors c'est, la loi du fauteuil roulant, c'est vrai que ça coûte tellement cher. Et on ne peut pas en avoir plusieurs, mais c'est vrai que du coup, je vais peut-être pouvoir acquérir un fauteuil roulant électrique qui me permettrait de pouvoir aller faire pas mal de balades en extérieur avec ma chère et tendre.
Ouais.
Et c'est quelque chose qui nous ferait du bien et qu'on aurait vraiment envie de partager ensemble, d'aller pique-niquer simplement dans la nature à l'extérieur ensemble.
Voilà, se réjouir des petites choses simples de la vie, mais essentielles. Si vous deviez donner un conseil à un couple qui vit une situation atypique, un peu comme la vôtre, ce serait quoi?
On va dire que c'est dans mon cas à moi, de mon côté, je dirais à une personne dans le même cas de bien faire attention à ne pas se tromper sur ses sentiments, parce que des fois, ça pourrait être parce que la personne s'occupe bien de soi, et on croit tomber amoureux. Et c'est vrai que moi, ça a été ma réflexion du début. Je me suis demandé si c'était de l'amour ou si c'était juste des sentiments de... Je sais pas comment on va appeler ça. Mais
de reconnaissance.
Exactement.
Ouais, c'est ça, de reconnaissance.
Et de faire attention à ça, mais de ne pas se priver d'une belle histoire, parce que moi, je suis un homme heureux et comblé à l'heure d'aujourd'hui.
Et alors, comment...
Comment de ne pas laisser les peurs prendre le dessus, et puis surtout pas dicter. C'est vrai que souvent les autres nous disent bah faut faire comme ci, faut faire comme ça pour que chacun ait sa place et tout. Faut écouter personne, faut faire comme on le sent et pas écouter ses peurs, quoi.
Voilà, puis juste écouter sa petite voix intérieure, n'est-ce pas?
Exactement. Tout à
fait. Et juste Anthony, comment on fait la différence entre la reconnaissance et l'amour? Qu'est-ce qui diffère?
Dans mon cas, je sais que moi, je voulais du tout tomber amoureux. Et je me suis posé pas mal de questions. Est-ce que si je ne la vois plus, après, c'est propre à chacun, je pense. Mais moi, je me suis beaucoup interrogé. Et j'arrive à être assez lucide là-dessus. Et je pense que ça, c'est vraiment propre à chacun, malheureusement.
Bon, merci à tous les deux. Et on vous souhaite plein de bonheur, plein de projets et d'être heureux très longtemps ensemble. Merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Merci à vous et bonne journée à vous.
Et alors, je précise juste qu'on peut retrouver Lilou sur Instagram où elle partage son quotidien de femme, de maman et d'aidante. Ça s'appelle Lilou-Gus. Et puis, vous, Anthony, vous êtes gamer, youtubeur, streamer, et on peut vous retrouver sur votre chaîne Sans les mains, au pluriel, 73. Voilà. C'est merci à bien, tous les deux.
Merci à vous.
Bonne fin d'après-midi. Au revoir.
Les histoires d'amour extraordinaires de Sophie Davant, c'est tous les week-ends de 16h à 17h sur Europe 1 et elle nous donne donc rendez-vous eh bien, samedi prochain pour nous raconter la passion tumultueuse entre Sacha Guitry et Yvonne Printemps et puis dimanche, une histoire d'amour qui finit mal, George Sand et Alfred de Musset. Allez, à suivre la Libre Antenne en nouvelle diffusion, comme toutes les nuits, et puis la musique avec la chanteuse britannique Ray et son excellent titre « Where is my husband ?»« Où est mon mari ?» Une nouveauté Europe 1.
Husband is coming.
Where is my husband? La chanteuse britannique Ray, qui sera en tournée mondiale très bientôt, c'est à partir du 22 janvier. Malheureusement, la seule date en France à affiche complet, voilà, c'est la salle de l'Accor Arena, et c'est le 15 février. Allez, on redécouvre à présent des témoignages de la Libre Antenne au micro de Roland Pérez et de Valérie Darmon. Ils sont à votre écoute du lundi au dimanche. Alors Roland, c'est du lundi au jeudi et Valérie Darmon de vendredi à dimanche. Et c'est entre entre 22h30 et 1h. Vous pouvez nous contacter à tout moment, nous laisser un petit message avec vos coordonnées. Et dans tous les cas, on vous rappelle 01 80 20 39 21. On ne va peut-être pas vous rappeler maintenant, évidemment, mais très vite, hein, demain ou après-demain ou dans la semaine. 01 80 20 39 21.
Europe 1, la libre antenne. Roland Pérez.
Bonsoir Arthur.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous pour parler d'un sujet dont on n'a pas l'occasion de parler, effectivement, qui est l'infertilité masculine. On est le 12 mars 2020, vous avez 31 ans. Lorsque vous apprenez au hasard de tests médicaux que vous faites, parce que vous êtes dans un parcours pour avoir avec votre compagne un enfant, vous tombez sous le choc quand vous apprenez que lorsque le médecin vous indique que vous êtes infertile.
Eh ben oui, vous avez, c'est exactement ça. Et en fait, c'est même la, je dirais qu'aujourd'hui, c'est même la raison de mon appel. C'est de vous raconter justement l'histoire qui, de ce jour qui a réellement bouleversé mon quotidien. Mmh. Et tout, je pense que vous vous souvenez tous de l'annonce du premier confinement du Covid. Mmh. Et ben moi, en fait, je me souviens de 5 jours plus tôt.
C'était, oui, c'est ça, le 12 mars. Ouais.
Mm-hmm. Le 12 mars 2020, c'est ça. Et cet instant, pour moi, il est gravé dans la mémoire. C'est comme si c'était hier. Et je rentre du travail et je m'installe. On s'apprête à dîner et je vois qu'il y a un courrier qui est à ma destination. Et ma compagne ne l'a pas ouvert, elle me l'a laissé. Et donc, il est sur le rebord de la table. Et... je me souviendrai toujours de ce qu'on avait prévu de manger ce soir-là, mais pourtant, en fait, c'est pas du tout ce qui va se passer, vu que j'ouvre le courrier, c'est un résultat avec des analyses médicales, et en fait, je vois des chiffres qui sont en gras. Et pour moi, je me dis, bah, le laboratoire, ils sont sympas, ils les ont mis en gras, comme ça, on arrive bien à les lire. Et en fait, il y en avait un qui était pas en gras. Et du coup, alors, je les relis tous, et c'est là où j'ai compris qu'en fait, ils étaient en gras parce qu'ils étaient hors normes. Tous mes résultats d'analyse de mon spermogramme qui définit la qualité de mon sperme, de ma fertilité, eh ben, était hors norme. Et donc, comme vous l'avez dit, ça a été un choc, vu que
vous avez su lire et comprendre tout de suite les résultats.
Ah. Et c'est pour ça que je lis et je vois tous les résultats en gras. Après, je comprends qu'il y en a qui sont en gras, mais un ou deux qui ne le sont pas. Et en fait, et après, je comprends, je vais au bilan final. Et là où ils expliquent par des mots très savants, c'est des mots compliqués que je ne connaissais pas. Beaucoup sont avec des préfixes grecs sur toutes les anomalies, en fait, de ce que le bilan médical disait. Mmh. Et alors, je comprends pas du tout. Et même, très rapidement, bah, du coup, je vais chercher sur Google juste pour essayer de comprendre ce que les mots veulent dire. Et il n'y a qu'une seule chose que je comprends, c'est que notre projet d'avoir un enfant qui avait démarré il y avait 9 mois auparavant va être en fait bien plus compliqué que ce qu'on imaginait.
Alors, il faut dire que votre couple était plutôt dans la vie, dans la légèreté. Tout était simple, facile entre vous. Vous filiez le parfait amour depuis déjà 2 ans. Donc vous étiez dynamique, pétillant, heureux. Et puis vous dans ce parcours pour avoir un enfant, quoi de plus naturel. Bon, comme ça venait pas, vous vous êtes dit on va faire des examens pour encourager, en tout cas pour stimuler, comme on le dit souvent lorsqu'on va voir des gynécologues spécialisés en la matière, pour stimuler cette fertilité. Donc il faut faire un état des lieux, et c'est ce que vous avez fait. Mais loin de vous de penser qu'en fait vous alliez être déclaré totalement infertile.
Tout à fait. Et ce qui est important, et d'ailleurs je tiens à remercier ce médecin généraliste qui, quand je lui ai expliqué qu'on essayait d'avoir un enfant et qu'on essayait depuis plus de 6 mois, et qui, je le remercie, qui m'ait pris au sérieux et qui m'a dit bah écoutez, on va faire un premier bilan. Et pas que de la femme. On va regarder. Il m'a incité à aller faire pour moi du côté masculin un spermogramme, et ma compagne s'est allée voir du coup sa gynécologue. Et ça, c'était vraiment le meilleur cadeau en fait qu'il ait pu nous faire, c'est de pas nous dire bah on va encore attendre 6 mois et puis on verra dans un an et puis oh, c'est pas très bien grave, mais qu'il ait pris au sérieux et que du coup il nous ait orienté vers un premier diagnostic. c'est ce qui a permis en fait qu'on se rende compte qu'il y avait un souci, parce que moi j'avais 31 ans et pour nous en effet on filait le plus bel amour et tout allait bien, et on était dans cette insouciance du que ça va venir en fait simplement. Et au contraire, ma femme était déjà un peu plus âgée, et passé 35 ans en fait ça sert à rien d'attendre oui, on peut toujours attendre, mais en fait ça ne va rien faire avancer dans certains cas.
Oui, oui, non, mais vous avez fait les choses qu'il fallait faire. Si ce n'est que lorsqu'on vous annonce cela, vous le prenez extrêmement mal. C'est pour vous comme si on vous annonçait que vous aviez bon, c'est un peu délicat et difficile de dire ça aujourd'hui parce que c'est sans rapport, mais pour vous le prenez comme si on vous annonçait une très grave maladie.
Oui, mais oui, c'est vrai. Et pour moi, le choc, elle a été très important, en effet. Et c'est pour ça que je m'en souviens comme si c'était hier de cette annonce. Et aussi parce que cette annonce, elle a lieu par un simple courrier que je comprends pas, qui est difficile à interpréter. Et d'ailleurs, c'est pas notre rôle. C'est les médecins ensuite qui vont l'interpréter. Mais, et puis, c'est le fait que j'y suis pas du tout préparé. Parce que je pense que on parle peu, en fait, de l'infertilité déjà. Je pense que l'infertilité en soi, c'est un tabou. Et l'infertilité masculine, c'est encore quelque chose de moins abordé. D'ailleurs, je pense que on parle beaucoup à l'école, on parle de la procréation,
la reproduction,
de la reproduction. On parle de. Je me souviens qu'on m'a bien expliqué comment ne pas avoir d'enfants, comment se protéger, ou des maladies sexuellement transmissibles. Mais on parle pas du fait que attention, peut-être que Arthur, en fait, peut-être que t'auras pas d'enfants. Et je trouve que peut-être pour les femmes, c'est un peu plus abordé parce que on les sensibilise. Et pour moi, d'ailleurs, c'était s'il y a des problèmes de fertilité, c'est peut-être certainement parce que l'organisme reproducteur féminin est très complexe.
Oui, parce que la fertilité commence plus tard chez l'homme que visiblement chez la femme.
C'est vrai. Dès la puberté, elle est confrontée, elle est en tout cas face à au cycle
horloge
reproducteur. Ouais, ouais. Et l'homme, en plus, on dit toujours que l'homme, il a plein, on prend parfois la comparaison, plein de millions de valeureux chevaliers qui sont prêts à aller conquérir l'ovocyte. Donc on a l'impression que ça va tout se passer naturellement, en fait. Et ça, je pense que c'est peut-être ce qui a rendu que c'était encore plus difficile à accepter, parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas du tout dans notre entourage. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai envie d'autant plus d'en parler ce soir, c'est parce qu'en fait c'est un vrai tabou, j'appelle ça le tabou du tabou. L'infertilité, et après il y a l'infertilité masculine qui est comme...
Et vous, de toute façon, vous plus peut-être que quiconque, semble-t-il, vous vous étiez préparé à devenir papa. Vous vouliez devenir papa. C'était quelque chose que toute votre vie, quand vous avez été en état, en droit de le penser, ou en situation de le penser, vous le souhaitiez. Donc c'est pour vous la plus terrible des nouvelles.
En tout cas, je pense que c'est une terrible nouvelle. Et je pense que, oui, alors... dans beaucoup de cas dans notre société, on nous apprend en fait que c'est un peu notre futur, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours apprécié être au contact, j'ai vécu dans une famille nombreuse, et puis j'ai toujours apprécié être au contact des enfants. Je faisais du babysitting avant quand j'étais plus jeune, et pour moi c'était quelque chose de, c'est la chose la plus naturelle en fait, que de, une fois que l'on a rencontré une compagne avec qui on est heureux, de vouloir fonder une famille, je trouve que c'est une très belle chose. Mais d'un côté, toute notre société en fait nous pousse aussi un peu à ça. On s'aperçoit que, oui, entre guillemets, l'homme, à la base, il est aussi un animal, et donc il est fait pour se reproduire. Après, il y a plein de choix de vie que certaines peuvent choisir pour dire qu'ils veulent aussi vivre d'autres choses, et c'est très bouddhien aussi. Mais c'est vrai que c'était la chose la plus naturelle qui me paraissait, c'était de pouvoir, à mon tour, avoir un enfant et pouvoir lui faire partager plein de belles choses que sont la vie, en fait.
Et vous avez commencé, du coup, à culpabiliser envers votre compagne?
Je pense que déjà il a fallu accepter le choc, et je me souviens que le premier soir je suis allé me coucher en imaginant que c'était un mauvais cauchemar, et vraiment je me suis endormi en me disant de toute façon demain matin la feuille ne sera certainement plus là et je serai à nouveau fertile, et c'est comme ça que je me suis endormi. C'est vous dire combien c'était imprévu et difficile à accepter. Et après je sais pas, j'en ai pas voulu à ma femme tout de suite, j'en suis d'abord voulu à moi surtout. Je dirais en me disant, mais comment ça se fait qu'on doive traverser cette étape? Et du coup, j'ai beaucoup cherché à me renseigner sur savoir qu'est-ce qui m'arrivait. Et il m'est surtout il a tourné dans ma tête en rond le pourquoi nous et pourquoi moi et qu'est-ce que j'ai bien pu faire. J'ai voulu comprendre en fait pour essayer de trouver ensuite une solution. Je me suis dit, ben, une fois que j'aurai compris, on pourra ensuite agir. Et donc j'ai commencé à beaucoup me renseigner sur Internet, mais aussi en allant voir des médecins ou en regardant des... Oui, sur Internet, il y a un très bon site qui est FIF.fr, par exemple, et il donne des informations concrètes. Ou il y a aussi des magazines. En fait, j'ai découvert des magazines spécialisés dans la fertilité, comme il y a Payette Magazine.
Vous êtes rentré dans ce monde que vous ne connaissiez pas, mais avant que vous nous expliquiez ce que vous avez fait et comment quel a été ensuite le process, comment réagit votre compagne, justement?
Oui. Eh bien, c'était surprenant et intéressant, mais on n'a jamais réagi pareil à chaque instant. Et je me suis rendu compte que c'était face à une même annonce, deux personnes peuvent ne la reçoivent pas de la même façon, ne la vivent pas de la même manière. Alors moi, j'étais par exemple dans le choc et dans le déni complet face à cette annonce. Et elle, au contraire, tout de suite dans la tristesse sur Arthur, de toute façon, on n'aura pas d'enfant. C'est comme ça qu'elle l'a perçu et elle voulait tout de suite faire le deuil.
Le découragement et le deuil.
Oui, mais en même temps... alors moi je dis, mais non, mais on va se battre. Et donc on était deux dans un couple, mais complètement dans des démarches différentes, pourtant face à la même nouvelle. Et ça, on l'a vécu tout au long de notre parcours ensuite, où on a été très rarement tous les deux dans la même symbiose, dans la même démarche, souvent plutôt à se soutenir l'un l'autre. Quand il y en avait un qui était très mal, l'autre prenait le dessus et essayait de rassurer ou de motiver. Et donc là, moi, ce premier jour, c'était plutôt moi qui étais moteur sur « c'est rien, c'est une erreur du laboratoire, de toute façon, on va bien trouver une solution, tout va bien ». Et elle, au contraire, beaucoup plus réaliste dans « il y a un vrai problème, tristesse, et il faut qu'on accepte, il faut qu'on fasse le deuil tout de suite de ce moment ».
Ah oui, quand même. Et alors donc, c'est vous qui avez tenu, on va dire, la corde pour pouvoir avancer. Et vous vous êtes tourné, donc, cette fois-ci, vers ce qu'on appelle les FIV. Ces moyens qui sont faits, c'est ce qu'on appelle la fécondation in vitro, puisque la fécondation ne va pas se faire dans le corps de votre femme, elle se fait dans un laboratoire.
Oui. En fait, suite à mon infertilité, d'abord, c'est la question du choix. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. C'est que on parle d'un parcours d'infertilité, mais c'est le parcours déjà dans le cerveau, entre guillemets, je dirais, sur qu'est-ce que le couple va décider de faire. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis dans le déni. Au contraire, ma femme est déjà dans le deuil de... Qu'il faudra qu'on trouve autre chose. Et après, à chaque étape, chaque jour, c'est est-ce qu'on va refaire une analyse ou est-ce que du coup on arrête? Est-ce qu'on veut quand même avoir un enfant avec nos propres gamètes ou est-ce qu'on veut plutôt décider d'adopter ou est-ce qu'on veut ne pas avoir d'enfant du tout? Et donc c'est avant de savoir quelle étape faire, il faut la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a aussi pris rendez-vous chez un psychologue parce qu'en fait pour se dire qu'est-ce qu'on va faire. Maintenant qu'on a cette nouvelle qui, au passage, ne nous était pas du tout passée par la tête, maintenant qu'elle est là, comment est-ce qu'on va le vivre? Et ça, ça a été... Voilà, je dirais que la première chose, le premier choix qu'on a fait, c'est de se parler entre nous et avec l'aide d'un psychologue pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment et qu'est-ce qui va nous guider dans les mois qui vont suivre, en fait. Et en effet, on a discuté du coup avec ma femme et on s'est dit, pourquoi pas tenter d'avoir un enfant avec l'aide de la médecine. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés.
Vous avez consulté d'abord ensemble, le même psychologue, ou chacun, avez consulté le même, d'accord, un thérapeute, en fait, ouais.
C'est les deux, en fait. Je dirais, on a consulté ensemble un psychologue pour définir qu'est-ce que, en tant que couple, on voulait. Et je suis aussi allé voir un psychologue, ensuite, de façon séparée, pour que je comprenne, en fait, quel était aussi... comment j'allais accepter moi-même le fait de vivre ce deuil de la fertilité en soi qui m'était propre et comment est-ce que la vivre après comment l'accepter pour après mieux la vivre en couple.
D'accord, d'accord, c'est bien. Vous avez eu quand même, vous avez été extrêmement structuré et rigoureux dans votre process, c'est-à-dire que vous n'avez évidemment pas baissé les bras, mais vous avez mis de votre côté toutes les armes possibles, les recours, les idées,
oui.
C'est formidable, c'est bien.
On a essayé de se faire bien entourer, mais en fait, il faut surtout se souvenir que c'est des montagnes russes. En fait, il y a eu des jours, là, je raconte les bonnes journées qu'il y a eu, mais en fait, il y a eu plein de terribles journées où on était beaucoup dans l'effondrement, tout simplement de savoir ce qui nous arrivait, parce qu'en fait, on est face à l'inconnu et on ne sait pas vers quoi on va. On avance à petits pas et c'est quelque chose pour lequel, entre guillemets, on n'est pas formé à tout ça. Nous, on pensait qu'avoir un enfant, c'était tout simplement
naturel et facile.
Dans notre oui. couple, naturel, facile et que ça allait vite venir. Donc, donc en fait, ce n'est pas un parcours qui est facile et je pense qu'il faut du coup d'autant plus trouver les bonnes personnes avec qui en parler, que ce soit les médecins, les experts, trouver des bonnes bases, sources d'informations ou aussi l'entourage, mais en parler avec ceux qui vont nous faire du bien.
Vous avez trouvé des groupes de parole qui parlaient de ça ou pas du tout ?
Eh bien, c'est une excellente question. Et alors là, il faut se souvenir qu'on était en 2020 avec le Covid en plus.
Oui, oui.
Et donc, il y a dans les centres de procréation, il y a des psychologues dans les centres qui sont là pour aider les couples. Et ils peuvent aussi permettre d'avoir de temps en temps des groupes de parole et d'échanges. Après, je pense que c'est aussi parfois difficile de parler en couple ou de s'ouvrir vers les autres parcours. Et je pense que c'est quelque chose qui est quand même très fortement développé. Des groupes de parole d'hommes, c'est quelque chose qui est encore plus rare. Je connais un collectif, le collectif BAMP, qui est en train d'en mettre en place. Et ça, je pense que c'est une excellente démarche pour permettre d'avoir des hommes qui tentent de se soutenir ensemble dans leurs difficultés, en fait.
Bien sûr. Et alors, votre entourage, justement, on va y venir, hein, tout ce que vous avez fait et le process, mais votre entourage, je ne sais pas si vous aviez vos parents, vous avez vos parents l'un et l'autre, vos amis, vos frères et sœurs, par exemple, vous vous êtes ouvert immédiatement ou vous avez gardé ça pour vous, à votre travail aussi, comment ça s'est passé ?
Alors, immédiatement, non, parce que comme je disais, le choc était tellement lourd que déjà, il fallait juste essayer de comprendre nous-mêmes l'un et l'autre respectivement dans notre couple. Et après, plus le temps a passé, plus on s'est ouvert au fur et à mesure vers les gens, de façon générale. Pour la famille, oui, on s'en est ouvert à nos parents parce que ce sont eux les piliers, entre guillemets, et c'est aussi eux qui nous ont donné la vie, donc ils en connaissent un peu sur le sujet. Et donc... on a eu la chance d'avoir leur soutien à chacune des étapes et ça c'était une force en fait de savoir que il y avait des piliers qui étaient derrière nous qui étaient là que quand on avait besoin et ça c'était vraiment ce qui est bien c'est d'avoir les gens pas tout le temps sur le dos mais que quand on a réellement besoin.
Bien sûr.
Et après pour le travail c'était ce qui était important déjà, c'était d'en parler à nos supérieurs, aussi bien ma femme que moi. Ils étaient informés que on était dans ce parcours médical, ne serait-ce que parce qu'il y a plein de rendez-vous médicaux qui vont chambouler notre quotidien. Et moi, qui n'étais jamais absent au travail, j'étais tout le temps là, tous les jours. Et ben en fait, il y avait maintenant des nouvelles circonstances qui faisaient que c'était ma priorité et que donc il fallait que je pose des absences parce que on doit se rendre à des rendez-vous médicaux pour permettre que le
parcours
avance.
Bien sûr.
Et c'est des dates précises que l'on ne peut pas choisir. Et donc, on me dit, mais comment ça se fait? T'es pas là mercredi prochain, Arthur? Non, tu pourras peut-être le changer quand même. Tu viendras un autre jour. C'est ton rendez-vous, t'as qu'à le décaler. Mais non, en fait, on peut pas le décaler. Il y a la vie qui est en jeu, entre guillemets. Donc, c'est des choses qu'il faut qui viennent impacter notre quotidien. Et c'est ça de la difficulté, je pense, dans ce parcours, c'est que ça impacte le psychologique, comme on l'a dit juste avant, mais ça impacte aussi notre vie du quotidien, notre vie de couple et notre travail aussi, ou aussi notre santé directement. En fait, elle est impactée. Alors d'autant plus pour la femme, parce que tout ce parcours médical, ça implique que la femme va subir de nombreux traitements médicaux pour tenter d'avoir un enfant.
Oui, des injections. Et dites-moi une chose, vous avez pu préserver votre couple, justement?
Je pense que ce qui a permis de préserver le couple, c'était d'abord la communication. Ça, c'était... ça a engendré aussi des questions, des hauts et des bas sur... ma première chose que je me suis dit, c'était qu'il fallait que ma compagne me quitte, parce que c'est la seule façon pour laquelle elle soit heureuse, c'était qu'elle trouve un homme.
Vous y avez pensé. Sûr. Et oui, qu'est-ce qu'elle vous a dit, elle préférait renoncer que de vous quitter?
Eh bien, écoutez, j'ai la chance d'avoir une femme qui m'a soutenue tout au long du parcours et qui m'a dit qu'elle était d'abord heureuse d'avoir rencontré un homme et que l'enfant, c'était ensuite, en fait. Mais que ce qui était le plus important, c'était de m'avoir rencontré moi.
Votre amour. Ouais.
Et c'était ça qui était beau et qui était fort aussi, de se dire que, du coup, au lieu de tout arrêter et de se séparer, on allait essayer de tenter à deux de traverser cette épreuve. Mmh. Et à partir de là, en fait, je pense que le couple ne s'est que aussi raffermi. On a eu la chance, au contraire, de ne pas s'éloigner dans ce parcours, mais de dire qu'on voulait le vivre à deux et d'avancer étape par étape. On ne savait pas vers quoi, mais qu'on allait le traverser ensemble.
Et alors vous avez commencé à arpenter les chemins de la PMA et oui. Donc c'est ce qu'on disait de la FIV. On va y venir, parce que là il va y avoir les informations de 23h et on va si vous êtes d'accord avec nous, Arthur, vous allez rester avec nous. On va parler de ce process auquel vous avez été soumis, votre épouse et vous, et puis quand même de l'arrivée d'une petite fille.
Et oui, et en effet, ce process, c'est... On parle des FIV, mais dans notre cas, ça a même démarré par des inséminations, parce qu'en fait, j'ai vraiment découvert un univers, en fait. Il y a plein de méthodes d'avoir des enfants, finalement, plein de process médicaux différents, et notamment qui sont plus ou moins invasifs, plus ou moins impactants pour les corps, et surtout le corps de la femme. Et en fait, le corps médical nous a accompagnés en nous proposant à chaque fois des solutions qui soit de la moins contraignante et la moins difficile, et puis au fur et à mesure par des étapes de plus en plus dures, mais qui aussi apportent plus de chances de réussite, mais qui du coup sont quand même médicalement plus lourdes.
Le combat que vous avez mené, c'était un choix, évidemment, un choix de vie qui était important, un choix de vie pour vous, et un choix de donner la vie aussi. Vous avez, avec votre compagne, quand même, eu à affronter, j'imagine, des non-dits, des frustrations, du ressentiment?
Moi, je pense que le premier non-dit que je me suis rendu compte et qui a été vraiment important, c'est on se présente au centre de fertilité pour la première fois, pour la première insémination, et j'arrive dans la salle d'attente, et là, j'ai vu que, en fait, il y avait 17 femmes, et je m'en souviendrai toujours, je les ai comptées, qui attendaient avec moi pour avoir un enfant. Le fait de voir qu'il y avait autant de monde concerné, alors que pourtant, on n'en parle jamais, c'était ça, en fait, le plus grand non-dit, je pense, et qui était révélateur du fait que c'est un sujet dont on parle, parce qu'en fait, aujourd'hui, il semblerait qu'il y a un couple sur quatre qui est concerné par de l'infertilité.
Vous dites des femmes, il n'y avait pas de papa, de futur papa, je veux dire.
Eh bien, beaucoup moins. Et pourquoi? Parce que c'est quand même les femmes qui portent la vie. Mmh. Et je me suis rendu compte, en fait, que dans ces parcours, après, il y a énormément de petites étapes intermédiaires où on vient prendre des renseignements sur l'évolution du cycle de la femme. Et donc, en effet, l'homme n'est pas nécessaire à chacun des rendez-vous. Mais j'ai beaucoup apprécié aller à ces rendez-vous le plus possible, vu que c'était pour moi tout simplement un projet qu'on avait souhaité faire à deux au démarrage. Mmh. Et donc je trouvais important d'être présent et de soutenir aussi ma compagne dans ces différentes étapes. Mais c'est ce qui est important, en effet, vous dites qu'il y a peu d'hommes, et pourtant, dans quasiment une infertilité sur deux du couple, il y a l'homme qui est impliqué dans la raison d'infertilité. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai eu l'impression de me sentir très seul, comment ça se fait que ça tombe sur moi et qu'est-ce qui m'arrive, mais semblerait qu'il y a des statistiques qui montrent qu'il y a plus de 3 millions d'hommes aujourd'hui qui ont ce même souci d'infertilité.
Alors justement, Bernadette, notre précieuse Bernadette qui nous écrit au 739-21 sur Europe 1, demandait si vous aviez eu un accident plus jeune, ou si vous aviez eu des traitements qui auraient pu provoquer cette infertilité.
mon cas personnellement, c'était d'autant plus un choc parce qu'en effet, dans mon passé, il n'y avait absolument rien qui me soit arrivé de spécifique ou qui aurait pu justifier. Et les premières explications que j'ai eues par des urologues ou des andrologues, c'est que justement, c'était à la fois tout et rien qui était la raison de mon infertilité. C'est-à-dire que c'est ce qui aujourd'hui nous environne, entre autres, l'environnement, le lieu dans ce que nous mangeons, la façon dont nous vivons, nos conditions de vie qui ont un impact sur notre fertilité. Et donc, il n'y avait pas quelque chose de spécifique. Par contre, on m'a expliqué combien on pouvait essayer d'améliorer cette fertilité par justement une bonne hygiène de vie. Et donc, ne pas boire, ne pas fumer, manger sainement, dormir suffisamment, ne pas être trop stressé. Et tous ces petits facteurs qui, bout à bout, font qu'en fait, on vient améliorer sa fertilité. Et en fait, je dirais, c'est de même qu'à la femme, quand elle est enceinte et qu'elle porte sa grossesse, et ben on lui demande d'avoir une bonne hygiène de vie. Et ben en fait, je me rends compte aujourd'hui qu'il faut aussi que l'homme soit dans la même démarche quand il veut, lui aussi, générer la vie.
Et alors, vous vous êtes confronté, j'imagine, à une série d'attentes, d'espoirs et de désillusions.
Oui, et beaucoup de désillusions, en fait, parce que c'est pour ça que je pense qu'on parle aussi d'un parcours, c'est que si ça ne marche pas naturellement, je me suis rendu compte que ça allait être difficile que ça fonctionne. Et la nature, du coup, ne nous a pas fait de miracle, mais je pense que la médecine n'en fait pas tout le temps. Et on s'est rendu compte qu'en fait, même la médecine n'était pas capable de tout faire, en fait, et qu'il y avait une part d'incertitude et donc d'échec. Et quand on démarre un protocole d'insémination, c'est une chance sur 10 de réussite. Moi, je suis tombé nu quand le docteur a dit « Alors, on va faire ce parcours, vous allez avoir plein de traitements médicaux et à la fin, il y aura peut-être une chance sur 10 que vous ayez un enfant. » Je dis « Dans ce cas-là, autant ne rien faire. » Mais en fait, il faut se rendre compte que dans la nature, déjà, ça ne marche pas à tous les coups, en fait.
C'est jamais 100%, bien sûr.
C'est jamais 100%, mais c'est juste qu'un couple, de façon naturelle, ne s'en rend pas réellement compte parce que si ça ne marche pas le premier mois, il essaiera le deuxième mois et puis le troisième mois et au bout de quelques mois, on va dire généralement au bout de 4 ou 5 mois, si le couple est fertile, et bien en fait, ça donne une naissance. Ou plutôt, au bout d'un an, c'est là où on devient infertile. Parce qu'en effet, ça veut dire qu'il y a plus d'une dizaine de tentatives qui ont échoué. Mais dans le cadre d'un processus, d'un parcours médical, le problème, c'est que chacune des tentatives, on les vit pleinement médicalement de A à Z. Et du coup, chaque échec devient d'autant plus difficile à accepter parce qu'on l'a vécu à chaque instant et on a attendu chaque rendez-vous médical. Et du coup, au passage, c'est plus du tout quelque chose de glamour et ça devient un vrai parcours déshumanisé et très médicalisé, en fait.
Dans votre cas, dans le cas de votre compagne et de vous-même, finalement, vous avez un peu donné beaucoup d'espoir au pourcentage de réussite, puisque vous, en 3 ans, vous avez réussi, ou 2 ans et demi, vous avez réussi à avoir un enfant. Alors que souvent, dans ce type de procédure, de process, il y a un délai plus long, qui est quasiment de 8 ans. Et là, on a peut-être, dans ce délai de 8 ans, un pourcentage plutôt satisfaisant de couples qui peuvent espérer avoir un enfant.
En fait, c'est... Oui, je pense qu'il y a... En effet, mon témoignage, c'est un message d'espoir parce que ça peut marcher, bien que la médecine ne fait pas des miracles, mais il faut tenter, et c'est sûr que c'est qu'en essayant que ça pourra éventuellement réussir. Et c'est vrai que le message d'espoir, c'est qu'au bout de 8 ans, il y a 80% des couples qui ont tenté pendant 8 ans, qui finalement ont un enfant. Et donc, en effet, ça prouve que ça peut fonctionner. Mais par contre, il faut aussi pas oublier que donc ça veut dire qu'il y a un couple sur 5 qui, 8 ans plus tard, ils auront beau avoir tout fait, et pourtant, il n'y aura toujours pas de naissance qui sera là. Donc ça, il faut justement... C'est dur, mais quand on entend des gens qui disent bon, « fais une PMA et puis ça ira », non, ça c'est des choses qu'il faut absolument pas dire parce que ce n'est absolument pas le cas. Et tout ce qu'il y a derrière à traverser pour en arriver là, c'est... C'était tellement choquant que j'en ai écrit un livre, en fait, tellement ça m'a... Oui. Quand j'ai vu ces choses que l'on ne dit pas et que l'on n'a pas conscience, je me suis dit, mais ça, il faut l'écrire, parce que ça paraît important de le transmettre.
Et oui, oui, c'est un manuel à l'usage de ces couples et de ces hommes dont c'est encore un immense tabou de parler d'infertilité. D'ailleurs, votre livre s'appelle « Infertilité masculine », dossier 29-131, édition Coetquen, on dit
tout
peut-être.
Tout à fait, édition Coetquen. Ouais, mais Coetquen. En fait, je dirais que c'est un manuel, oui, pour ceux qui vivent l'infertilité et pour ceux qui... Je l'ai écrit pour ceux, en effet, qui doivent traverser cette annonce d'infertilité. Et ensuite, qu'est-ce qui va les cheminer dans les mois, et aussi bien dans leur tête que dans leur corps, que dans leur réflexion, que dans leur parcours.